88-971-1021. La CV qui mange du popcorn.
Oui. Le popcorn froid d'hier, mais c'est tout le temps bon.
Laissez-moi vivre, OK?
Laissez-moi vivre ma vie.
Putain, laissez-moi vivre!
C'est vrai que c'est le fond de la machine que j'ai gratté en plus.
Laissez-moi vivre mes émotions.
Laissez-moi vivre!
Exact. Comment ça va sur la route, les amis? 418-971-1021. C'est vendredi. Normalement, les représentants ont des rendez-vous très importants le vendredi après-midi, ce qui fait qu'il y a du trafic un peu plus tôt. Des boss aussi qui prennent des rendez-vous le vendredi après-midi, curieusement.
Lesquels?
Ça a-tu commencé?
Deux mentions à vous faire.
Ouais. Ça pourrait être ça pour gagner le cadeau de la fromagerie Victoria.
C'est tout ton boss.
C'est tout ton boss.
Ben oui. Ben oui, d'ailleurs, on a 50$ à gagner à la fromagerie à Victoria, donc restez là.
Restez là, puis on a en plus deux billets pour les remparts. On a du stock pour vous autres, donc restez bien branchés à Boulevard 102. Laurentienne, direction sud, un ralentissement pour aller chercher la capitale en direction ouest et capitale en est à la hauteur de Robert Bourassa. Il y a un ralentissement également. S'il y a quoi que ce soit d'autre, c'est 88-971-102 pour nous écrire.
Merci beaucoup. On aime bien ça prendre des nouvelles des gens qu'on apprécie, surtout les gens qui ont de multiples talents. Il a été policier, député à l'Assemblée nationale. Il a été aussi ministre, ministre délégué, PDG. Puis il est encore très, très jeune. Robert Poëti qui est là. Bonjour, M. Poëti.
Hey, bonjour à vous. C'est bien gentil de souligner que je suis très, très jeune. En plus que mon parti faisait de l'âger, c'est un peu que ça m'énervait. Alors, je suis correct là maintenant.
Quand vous regardez, votre carrière, M. Poëti, vous dites-vous, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là?
C'est drôle que vous dites ça parce qu'effectivement, il n'y a pas longtemps que je me suis posé la question parce que quelqu'un qui faisait de l'âgisme m'a dit « Mais là, tu ne prends pas ta retraite là, à ton âge. » c'est quand même assez surprenant. Puis je parlais avec Pierre Lavoie un moment donné, puis il disait que lorsque les gens atteignent après la soixantaine, en 60-65, lorsqu'ils arrêtent complètement, qu'ils ont travaillé toute leur vie, puis qu'ils arrêtent, il semblerait que sur le côté physiologique, le corps reçoit ça assez mal de plus rien faire tout d'un coup et que les petits bobos sortent. Fait que moi, je me dis, je suis souvent de continuer à m'amuser et à travailler un peu. Alors, je suis consultant actuellement, puis j'aide des entreprises qui, parfois, veulent faire du développement des affaires, mais aussi régler des problèmes. On dirait que ma vie a été toujours proche des problèmes. Et puis, j'étais le genre de personne qui disait, bon, comment on peut faire mieux, puis est-ce qu'on peut faire ça rapidement? Alors, c'est encore ça, mais un peu moins souvent à Québec. J'aime beaucoup votre ville, mais un peu moins souvent à Québec, mais j'ai toujours mon condo chez vous.
Donc, vous êtes rendu au privé comme consultant. Ça fait une minute environ qu'on a débuté l'entrevue. Trois fois, vous avez dit de l'âgisme. Ça semble être quelque chose qui vous prend à cœur. Vous allez travailler encore combien de temps, M. Poëti? Puis quel est l'emploi que vous avez préféré?
Ben, ça fait pas longtemps que j'en parle, puis c'est vrai que je le souligne parce que je m'aperçois qu'il y en a beaucoup d'âgistes, puis au moment où on a des gens que je connais bien, moi, des amis, des gens proches de moi, qui sont presque poussés à l'extérieur au moment où on cherche tellement de gens pour travailler au Québec. L'autre chose, c'est l'expertise que vous avez. Des gens me parlaient de politique l'autre fois, ils faisaient une référence là avec M. Coderre, je disais, moi, je suis pas le passé, je suis le présent. Puis sur le présent, je pense que je peux participer sur une base personnelle, professionnelle, puis publique à certains égards, mais je suis pas l'avenir. C'est-à-dire que moi, je peux pas penser dans 10 ans, 15 ans, si on, mettons les gens qui vont en politique, un mandat, c'est au moins 4 ans. Alors, moi, tant que je vais... Puis une autre faiblesse, j'ai pas beaucoup d'AB, moi. Parce que le matin, moi, le samedi matin ou dimanche matin, si c'était tranquille, ben j'allais au bureau parce que j'aimais mon travail. J'ai toujours aimé le travail que j'ai fait. Pour moi, c'était pas lourd d'aller travailler. Maintenant, j'apprécie davantage. Moi, en politique, je disais, ma vie, c'était toujours des lundis. C'était tout des lundis, ma vie, moi. Là, j'ai des vendredis, des samedis. J'haïs pas ça. Combien de temps, je sais pas. Tant que je vais m'amuser, je vais le faire. Ça, c'est clair. Puis aussi avoir un sentiment, puis ça, je sais pas, peut-être ça remonte à bien loin, mais un sentiment de participer à améliorer certaines choses. C'est pas de l'altruisme, là. C'est être parce que je me suis impliqué là-dedans, ça l'a aidé. Donc, beaucoup de gens qui m'appellent, puis ils ont des problèmes ou ils veulent discuter. Puis je fais un peu de mentorat avec des jeunes. Fait que, écoutez, quand je vais arrêter, je sais pas. Tant que la santé me le permet, ma santé va bien. Puis l'Institut de cardiologie chez vous à Québec, et je veux le souligner, les 5 meilleurs à travers le monde, évidemment, en Amérique du Nord, il y en a 4 aux États-Unis, puis la 5e, c'est la vôtre à Québec. Alors, eux m'ont sauvé la vie. J'ai eu 5 pontages après la politique. J'en ai pas tant parlé, mais ma santé est bonne. Mon cœur est parfait.
Ouais.
Alors, je vais continuer.
M. Poitier, moi, j'ai des amis qui ont été dans l'armée puis qui se sont retirés relativement tôt là, pour la retraite, autour de 40 quelques années. J'en ai d'autres qui étaient dans la police, que ce soit pour ce qui est de la SQ ou encore
oui.
des gens du service de police de la Ville de Québec, qui, eux autres, se sont retirés aux alentours de 55 à peu près. Puis tous ces gens-là me disent « La retraite, c'est le fun, mais il faut que tu la prépares d'avance. » Puis dans tous les cas que je vous parle, que je connais, ils ont tous continué à travailler par la suite. Mmh. Ils ont été retraités pendant quelques mois, puis après ça, ils se sont trouvés d'autres obés, puis ils sont repartis pour un autre ride. Puis pour ce qui est de l'âgisme, je pense que peut-être que les discussions viennent beaucoup avec ce qu'on voit actuellement aux États-Unis. On a deux octogénaires pratiquement, là, pas de Trump,
oui.
et pas encore arrivé à 80 ans, mais on a deux personnes qui sont très âgées, qui
oui.
veulent se disputer la présidence des États-Unis, dont un qui a des problèmes physiques et cognitifs. Peut-être que c'est pour ça qu'on parle de l'âge en politique, là, mais on va se
peut-être.
Dire, pour diriger les États-Unis, peut-être, ça prend
quelqu'un
qui est là.
Faut regarder. Moi, je connais des jeunes vieux puis des vieux jeunes.
Oui.
Alors, donc moi, je connais des jeunes qui sont vraiment plates, pour être honnête. Là, j'y juge pas mal, là, mais ils sont vraiment plates. Et puis, moi, j'ai toujours aimé travailler avec les jeunes parce que je considérais qu'eux, je considère toujours qu'ils sont l'avenir. Fait que l'expertise jumelée avec la passion puis l'intensité, moi, je pense que c'est gagnant.
Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si dur, la politique? Qu'est-ce qui fait en sorte que des top guns en politique, on en cherche constamment? Pourquoi c'est si dur d'en trouver? Est-ce que c'est uniquement des raisons de salaire ou on juge que la politique, c'est cruel?
Je vais prendre la première partie. C'est certes pas pour le salaire. Mais d'un autre côté, si vous avez jamais eu comme un poste là, qui était très, très bien rémunéré, puis là, vous allez en politique, ben là, vous avez des députés, là, on sont pas loin de 100 000 $ les députés, là, je sais qu'il y a eu l'augmentation. Là. Alors, donc, quelqu'un s'entend, quelqu'un qui faisait 45 000 par année, parce qu'il y en a, hein, des gens qui sont dans des emplois, qui sont moins rémunérés, puis où c'est un couple, alors là, la personne va s'aperçoit que, wow, c'est quand même un bon salaire, mais la vérité, oui, c'est un bon salaire, mais si vous avez des fonctions qui sont plus exigeantes, donc vous parlez de ministre, oui, vous avez le salaire est plus élevé, mais quand je disais que, moi, ma vie, c'était tout des lundis, mais c'était vrai, je disais, j'allais cette jours par semaine, je m'en plains pas, j'ai été rémunéré et je l'ai accepté, mais vous n'allez pas là pour l'argent, ça c'est sûr. Après ça, l'autre côté, moi j'ai une certaine force de caractère, je suis assez positif dans la vie, mais j'ai un peu de misère avec la critique à l'occasion quand elle est personnelle, puis je me remets en question, puis alors donc, il y a des jugements malheureusement, aujourd'hui avec les médias sociaux, puis je pense que les maires des municipalités, des petites municipalités le vivent encore plus parce que la proximité avec le maire local est là. Il y a beaucoup de critiques et puis moi, il est arrivé à quelques occasions en 7 ans que j'ai écouté quelqu'un qui était proche de l'agressivité, mais qui en avait plein son chapeau. Puis j'ai dit, écoutez, moi, je vous écoute, là. Moi, sérieux, là, je pense que je vais vous aider dans la prochaine élection. Présentez-vous. Présentez-vous, puis allez-y si vous voulez changer des choses. Puis moi, quand le Parti libéral m'a appelé, j'étais à politique, j'avais des valeurs libérales, mais j'avais jamais été politisé dans le terme. Et puis, j'ai pensé à certains égards que je pourrais peut-être faire des choses pour aider l'ensemble du Québec. Puis, j'ai eu en 7 ans 8 projets de loi, dont 2 que j'affectionne particulièrement. Puis, je me dis, si j'avais pas été là, est-ce que ça aurait fait? Est-ce qu'il y aurait passé? Je suis pas sûr pour un, en tout cas, puis sûr pour l'autre que non, ça aurait pas eu lieu. Fait que, pour une certaine satisfaction, mais c'est exigeant, c'est difficile, c'est... Les jeunes qui ont des enfants, je sais pas comment ils font. Moi, ma fille était plus vieille, mais ça a brassé le couple, je peux vous dire ça, là. Puis évidemment, mon ex-épouse n'aurait pas aimé ça entendre parler de ça dans les semaines que j'avais quitté, mais en disant qu'une partie de la politique avait brisé, en fait, ma relation de couple, parce que t'es pas là. Et puis je connais quelqu'un qui est au gouvernement actuellement, puis qui m'avait appelé parce que M. Legault l'avait appelé. Et puis on est allé déjeuner, je me souviens. Et puis il m'avait dit, écoute, là, j'ai eu l'appel, penses-tu que je devrais y aller, c'est ça? Mais j'ai dit, écoute, ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, il dit, si ma femme si je retourne en politique, elle va me tuer. Et je l'ai vu, il n'y a pas tellement parce qu'il avait fait un petit passage. Bon, on pourrait savoir c'est qui, mais c'est la réalité. Là. Puis je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps. Puis je dis, écoute, tu vas bien, mais tu as l'air fatigué, mais tu vas bien. Je dis, finalement, ta femme, elle ne t'a pas tué. Ben non, elle ne peut pas me tuer, elle ne me voit plus.
Ah.
Fait que c'est ça sa réponse. Puis c'est un ministre important au gouvernement.
Est-ce que c'est difficile, M. Poitty, de faire passer ses idées en politique? Parce qu'après ça, bien, une fois qu'on a des idées et qu'on considère que c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, il faut essayer de convaincre les autres membres de l'équipe. Puis si le premier ministre dit, si votre chef dit non, on n'embarque pas là-dedans, ça doit être dur des fois. Il faut être humble et de se dire, bien, tout le monde a le droit de se tromper. Puis on continue.
Ah, mais ça m'est arrivé deux fois, moi, au chef de cabinet et le premier ministre ont dit, on va pas là-dedans. Puis, la vérité, je ne les ai pas vraiment écoutés parce que ça n'avait pas de bon sens. Il y avait le train en Gaspésie, une partie du train en Gaspésie, Capelan, où il y avait 350 emplois reliés à cette partie du train de la Gaspésie, des éoliennes, M. Babin, je me souviens de son nom, qui, lui, rénove les trains de l'Ouest canadien. Donc, il fait des trains VIP, tout ça. Donc, il faut trop bien que le train se rende à Capelan. Il y avait 350 emplois reliés à ça. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pas ça, c'était pas le rendez-vous du PM, mais qui m'a dit, Robert, on n'a pas de vote en Gaspésie. J'ai dit, ben oui, puis une fois qu'on est élu, selon moi, là, il faut trop bien qu'on travaille pour tout le monde. Puis la faillite, c'était 800 000 $. Alors, la première fois que je l'ai expliqué au Conseil des ministres, à 5h moins quart, je vais vous dire, j'ai pas eu de succès. Fait qu'on a décidé le prochain mercredi. Puis quand je suis allé le prochain mercredi, ben, on va faire une affaire avec vous. Moi, je vais juste poser une question, on était 25. Combien ça coûterait créer 350 emplois en Gaspésie? Puis ça prendrait combien de temps? Je veux une réponse de tout le monde. Puis à la fin, j'ai dit, moi, la réponse, là, ben, c'est demain matin, ça coûte 800 000. Fait que, et elle m'a dit, ouais, expliquez de même, on n'a pas vraiment le choix, Robert. Fait que, mais on a sauvé 350 emplois en Gaspésie. Je sais pas comment, ça allait être impossible de créer ça.
Mais vous avez réussi à faire passer. Vous avez réussi à faire passer vos idées.
Bon, je l'ai fait. En Gaspésie, il y a des gens qui m'aiment beaucoup, mais ça a resté pour moi quelque chose d'important. Puis le REM à Montréal, moi, je me suis fait dire, en commençant, Robert, là, on était bon. Le gouvernement disait qu'on était entre 4 et 6 milliards dans le rouge. Là. Le Parti québécois avait perdu l'élection. Et puis, on était peut-être à 4 milliards, mais on était dans le rouge. Donc, on n'avait pas d'argent pour investir. Puis là, ben, le pont Champlain s'en venait. M. Lebel m'a dit, qu'est-ce que tu veux sur le pont? Fait que, et là, j'ai été dans une soirée philanthropique, là, dans ma première sortie de jet set gouvernementale. Puis c'était au musée McCord. Puis M. Sibia, que je connaissais de réputation, il est venu me voir. Il était à la caisse de dépôt. Puis il dit, puis, M. Poitier, qu'est-ce que vous allez faire avec le pont Champlain? Puis le train électrique. Bon, j'ai dit, moi, M. Sibia, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai pas d'argent. Ah, mais dis-moi, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai pas le droit d'investir en infrastructure. Parce que quand la loi avait été faite au début de la Caisse de dépôt, c'était un risque, les infrastructures, fait que on l'avait interdit par la loi. Et c'était plus le cas aujourd'hui. La Caisse de dépôt est solide, là. CCBA a fait un travail fantastique, puis ses prédécesseurs aussi.
On a travaillé.
Fait que j'ai dit, ah ouais? Oui. Ben moi, j'ai dit, bon, ben écoutez, moi, ça a l'air, je suis législateur, si je change la loi, puis je vous permets d'investir en infrastructure, vous mettez combien là-dedans? Il dit, entre 5 et 6 milliards. Parfait. J'ai appelé le bureau du PM le lendemain, puis parlé au chef de cab, puis disait, j'ai été super qu'un gars hier, puis il est prêt à mettre entre 5 et 6 milliards, parce que ça ne venait pas sur le budget des Québécois. Oui. Et puis, il a dit, ben oui, arrête de niaiser. Non, c'est ça. Fait que,
il y en a qui croient à ces projets-là, puis veulent que ça avance. On parle des fois de TGV avec la classe d'affaires, là, puis il y en a une couple qui voudraient le financer par eux-mêmes, parce que, en tout cas, dans des soirées, admettons qu'on se retrouve avec des gens en affaires à Québec, ça jase, j'imagine pas, mettons, à travers la province. Mais j'ai une question pour vous, M. Poitty. Vous n'étiez pas en santé. Mais je vais aller tenter de vous poser la question quand même. Vous avez vu le poste qu'on a ouvert en santé. On cherche celui qui va ficeler le projet actuel là, de Christian Dubé pour revamper justement tout ce qui est ministère de la Santé. On cherche un Top Gun. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est pas Tom Cruise qu'on veut, mais un Top Gun. Mmh. Pensez-vous que ce serait mieux quelqu'un du privé qui a travaillé dans une toute autre sphère ou quelqu'un de l'interne qui prend ce poste-là? Comment vous voyez l'adhésion de ce Top Gun-là et son CV, son curriculum vitae?
Ben écoutez, Quelqu'un qui l'avait écrit mieux que moi ou qui l'a dit mieux que moi, si on prend les mêmes moyens puis on fait les mêmes choses qu'on faisait avant, on ne pourrait pas s'attendre à un résultat différent. Et c'est pour ça que M. Dubé fait un travail extraordinaire. Il travaille. Puis il avance. Mais au bout du chemin, là, quel est l'état là, de notre système de santé actuellement? Puis je le dis en tout respect, là, ça va pas bien. Et c'est pour ça que ça prend pas nécessairement un médecin. C'est pas vrai que ça prend un médecin. Il va connaître davantage tous les thèmes reliés à ça, mais il faut gérer ça comme une entreprise privée. Puis une entreprise privée, là, si vous n'êtes pas efficace, là, ben vous fermez. Alors, jusqu'au gouvernement, si vous n'êtes pas efficace, ben vous fermez pas. On met juste un peu plus d'argent. Puis quand on parle de partenariat public-privé, là, je veux dire, moi, on a des succès là-dedans. Le pont de la 25, là, ça a été terminé, c'est un partenariat public-privé, ça a été terminé à peu près 2 à 3 mois avant. Il y a plus de 100 millions qui est revenu là, au gouvernement avec les passages, le péage là-bas. Puis je regarde le projet, tiens, de Québec puis Saguenay, le 175, 3 ans de retard, je pense, 3 ans. Fait que ce que je dis, c'est que il faut qu'on fasse autrement. Ça n'a pas marché, là. Tout ce qu'on a essayé de faire depuis longtemps, là, des fois, ça va un peu mieux, mais pas tant. Alors, une fois que vous êtes dans le système, là, notre système de santé est fabuleux. Mais rentrer par l'urgence, rentrer par un problème, une fois que vous êtes dedans, c'est génial. Mais, tu sais, on a encore bien du monde qui cherche un médecin de famille. Là.
Alors, pour vous, ça serait vraiment quelqu'un de l'extérieur, plutôt un gestionnaire du privé qui arriverait. Pas quelqu'un de l'interne qui est bloqué par l'administration?
Ben non, parce que ça avait été quelqu'un de l'interne. Pourquoi il s'est pas levé avant, lui? Puis il n'a pas dit à tout le monde, « Hey, regardez, là, je pense que j'ai une petite bonne idée, moi. Ceci, cela. » C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la Caisse de dépôt puis le REM aujourd'hui. Ben, je comprends qu'il fait un peu de bruit, là, puis il travaille dessus, puis des fois, il fait défaut, là. Mais le métro de Montréal, c'était ça aussi au début, là. Alors, je pense que ça prend quelqu'un qui va le traiter comme le privé. Évidemment, on fait pas d'argent avec la santé, mais l'idée, c'est que on soit capable de donner des services à hauteur d'une entreprise privée.
Ça pète,
puis c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne.
Ça pète de partout en ce moment dans divers ministères. C'est quoi, selon vous, le point numéro un ou la priorité?
Bien, on a toujours les mêmes. Vous savez, quand on arrive au gouvernement, puis la veille, on dit, ah ben là, le premier ministre va choisir les ministres, puis les ministères. Il y a des ministères que les gens ne voudraient jamais aller s'asseoir là. Là, M. Dubé, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un homme brillant, là. Mais là, il s'en va à la santé. Je ne sais pas comment caler sa santé, justement, moi, à travers ce qui passe. Après ça, vous avez l'éducation. Hein, ça, là. C'est pas trop drôle. L'éducation, parce que pourquoi? C'est majeur, c'est important, c'est nos enfants, c'est le développement du Québec sur l'avenir. Alors donc, puis après ça, ben, moi, quand il m'a rencontré, honnêtement, dans mon fort intérieur, je m'étais dit, si jamais il me nommait à la sécurité publique, pour moi, intérieurement, ça serait une forme d'accomplissement. Tu sais, j'étais 28 ans sorti du Québec, j'ai travaillé avec plusieurs corps de police, puis il me dit, ben, tu sais, Robert, c'est bien sûr que si on te met à la sécurité publique, là, ça ne serait pas un problème. Là, tu ferais ça les deux doigts dans le nez. Mais j'ai plus de problèmes au transport. C'est bien difficile, les transports. Fait que je te donnerais les transports. Ah oui, puis by the way, tu es un gars de Montréal. Fait que je vais te donner Montréal aussi. Avez-vous une idée, vous, du temps que ça, le temps de représentation avec les activités de Montréal, puis les développements, puis les changeurs de Turcot, je veux dire, tu sais, toutes les ouvertures, les musées des Beaux-Arts, moi, ça a été bon cette partie-là parce que je n'avais pas jamais rentré d'un musée dans ma vie, moi. Et puis ça m'a aidé un peu sur sa culture. Là.
Mais c'est-tu plus du PR au final ou c'est votre équipe qui travaille fort dans les coins quand vous êtes ministre?
Bien, l'équipe, elle travaille fort, mais l'équipe qui est au cabinet, ça, c'est mon équipe. Mais les fonctionnaires, il faut que ça devienne notre équipe. C'est pas tout le temps, complètement facile. Tu sais, moi, quand j'arrivais au transport, juste pour faire sourire, moi, j'ai fait 35 ans de la moto. Fait que j'ai dit à Mme Tremblay, qui était là à l'époque, Mme Tremblay, j'ai dit, écoutez, moi, le gars là, qui a fait changer la loi pour qu'il y ait un accompagnateur avec quelqu'un qui apprend à conduire une moto, j'aimerais ça y parler, parce que je comprends pas le concept, moi, que pendant un certain nombre de temps, vous devez rouler avec un accompagnateur, quelqu'un qui est en avant ou en arrière de vous. Je me dis, comment... Puis si tu n'as pas quelqu'un qui veut faire ça avec toi, tu peux pas rouler ta moto. Fait que comment tu fais pour apprendre à conduire une moto? Puis le gars, il est en avant. Comment il fait? Il fait des signes? Comment il peut te permettre de freiner plus vite? Je trouvais l'idée un peu ridicule, je vais vous le dire, mais j'ai jamais pu le rencontrer. Parce qu'on m'a dit que finalement, il avait changé de bureau. Mais c'était un peu difficile. Puis avec la sous-ministre, le sous-ministre, les gens qui sont là, les plaques personnalisées. T'sais. On était la seule province au Canada qui n'avait pas. Puis moi, j'ai dit, moi, je pense que ça serait vraiment une bonne affaire. Puis, ils ont dit, OK, il veut ça, on va faire ça. Ça m'a pris presque 4 ans. Parce que là, le fils de langue française est rentré là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait le droit d'écrire sa plaque? Est-ce que la plaque vous appartient ou elle appartient à la société d'assurance?
Oui.
En tout cas, ça a été toute une histoire. Puis, quand ils ont sorti ça, ils ont dit, ça va être comme genre 20 $. Je dis, non. C'est un produit de luxe, ça. Mais c'est 100$, c'est 150$, puis pour la garder chaque année, un autre 35$. Ça, c'est un produit de luxe. Ceux qui n'ont pas l'argent pour mettre le nom qu'ils veulent sur leur plaque, là, mais ils ont la plaque normale, puis ils ne payent pas plus cher. Mais un produit de luxe, faisons-le. J'ai croisé quelqu'un par hasard dans un resto de Québec l'autre jour, il m'a dit, vous n'avez pas idée l'argent qui rentre avec ça, on n'aurait jamais pensé que ça aurait marché autant. Ça a fait du bien d'avoir un homme d'affaires à chez nous, au ministère des Transports. Fait que c'est des petits détails, mais c'est comme ça. Faut-tu te battre tout le temps.
Robert Poitier, mes deux dernières questions sont là en 30 secondes, mettons. Est-ce que il y a certains ministères où c'est pas le ministre qui est responsable, qui est le vrai boss dans place, c'est un peu plus le sous-ministre qui emmène large?
Bien, je dirais qu'au Conseil du Trésor, il y a sûrement un lien assez direct avec le bureau du premier ministre. On s'entend, je veux dire, c'est l'argent des Québécois et des Québécoises. Alors, le Conseil du Trésor, c'est particulier. Ça, c'est clair. Si le premier ministre et son équipe décident qu'on tourne à gauche, puis la tendance à faire vers la droite, moi, je vous annonce qu'on va tourner à gauche. Là. Dans Uber, je l'ai vécu, moi, dans Uber. Là. Alors, donc, je pense que le premier ministre, il a toujours la prérogative, puis je ne juge pas, moi. C'est lui, le premier ministre. C'est le patron. Fait que si lui, il décide autre chose, en général, il va consulter au caucus. Moi, j'ai toujours pensé que le caucus, puis il l'avait dit, on était tous égaux au caucus, sauf qu'on avait des responsabilités différentes. Alors, donc il y a certains sous-ministres qui sont là, qui ont beaucoup d'expérience. Puis c'est bien ainsi. Maintenant, comment je vous dirais, si la volonté du peuple, des citoyens, puis ça, pourquoi vous avez été élu, puis vous voulez le réaliser, mais ça donne qu'un fonctionnaire, que ça y tente pas, et il peut ralentir la machine en sac à puce, là, je peux vous le dire. Là. Mais en général, c'est pas ça qu'ils font. Mais il y en a qui sont capables de le faire.
Est-ce qu'un jour, Robert Poitier reviendra à la politique?
Non, parce que je vous reviens à quasiment ma première question. Je suis pas le passé. Je suis vraiment le présent, puis je pourrais aider vraiment des gens qui veulent se lancer, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont des ouvertures d'avenir. Tiens, je pense à Mme Fournier, à Longueuil, la deuxième plus grande ville au Québec. Elle n'avait pas un grand passé politique pour aller s'asseoir d'une chaise aussi importante que celle-là, mais elle n'est pas toute seule, cette dame-là. Elle a des gens avec elle, puis elle réussit bien. À Terrebonne, Mathieu Traversy, qui était au PQ, c'est un jeune politicien qui est efficace, mais évidemment, il ne fait pas ça tout seul. La clé, c'est de travailler avec d'autres. Que non, moi, aller sur la grande chaise, non, mais je pourrais aider quelqu'un. Ouais, ça me ferait plaisir.
Robert Poitier, ça a été un plaisir. On a fait une belle run de voiture ensemble.
Exact, on s'est promené. Allez, bonne journée.
La saison de moto commence bientôt. On attend avec impatience.
Salut bien.
Merci.
Robert Poitier, ex-policier, ex-député à l'Assemblée nationale, ex-ministre, ex-PDG, homme d'affaires.
Ex-tout.
Un homme aux multiples ressources. J'attendais quelques confirmations parce que j'avais eu vent de ça ce matin de certaines sources. Mais là, je peux vraiment vous le confirmer. Ça va probablement être dans les grands médias dans les prochaines heures. L'homme d'affaires Jean-Noël Sarto-Lacroix. Jean-Noël Sarto-Lacroix, qu'on appelle dans le milieu Sarto-Lacroix, met en demeure le service de police de la Ville de Québec. Les enquêteurs l'ont averti dans les derniers mois que sa vie est en danger, mais ne l'ont pas protégé et il poursuit le SPVQ pour environ 4 millions de dollars. Il a dû, ça je l'avais mentionné en fait sur nos zones aussi il y a de ça quelques mois, il a fait appel à des gardes du corps parce que le service de police de la Ville de Québec ne lui donnait pas la sécurité
qu'il voulait,
qu'il croit qu'il aurait dû avoir. Donc, garde du corps, il a dû faire des petits voyages en Floride aussi parce que semblerait que ça devenait chaud, je vais dire ça comme ça. On parle de véhicules aussi qui étaient adaptés pour se protéger des balles, sa résidence qu'on a dû protéger encore plus. Donc, c'est l'information que j'ai et qui va être confirmée probablement là, dans les prochaines heures dans les grands médias. OK. Hey, on va faire une courte pause, les amis. 88-971-1021. Puis pour les gens qui voulaient savoir, c'est Armoire PNM. Pour les gens qui voulaient savoir c'est quoi son entreprise. Son entreprise qui est incendiée il y a de ça quelques semaines aussi.
Ouais.
Je sais pas, c'est en 2023, fin 2023. Peut-être que tu pourrais me trouver la date, là. Mais voilà. Donc,
j'ai hâte de voir. 2023.
Novembre exact. 2023. Donc, c'était son commerce. Nous autres, on va faire une courte pause, mais on vient tout de suite.
Marceau le midi.